아버지,
Dieu le Père, tu nous as donné ce jour saint et sacré pour pouvoir recevoir ta parole. Merci de cette grâce. Bénis nos esprits pour pouvoir recevoir la parole du Dieu vivant ou en les lèvres de ton serviteur. Donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Je prie au nom Jésus. La prière est la vraie foi. Lisons ensemble le résumé de la parole de Dieu. Dieu est vivant pour l'éternité. Il est esprit et le Tout-Puissant. Pourtant, il aime l'humanité et en fit son peuple et ses enfants. Par conséquent, la puissance qui permet de voir Dieu, c'est la foi. Et chercher sa voix, c'est la prière. D'où l'impossibilité pour le peuple et les enfants de Dieu de le voir sans la prière de la foi. La foi est l'alliance de Dieu, aussi grande que les cieux, même s'il est aussi petite qu'une graine de moutarde. La prière est le cœur de Dieu, la semence d'un grand signe, même si elle est suivie d'une réponse aussi petite soit-elle. La foi du christianisme, c'est celle de la prière, et le Seigneur Jésus aussi pria par le Saint-Esprit. Prions, prions par la foi et ne doutons pas. Dieu tient ses promesses. Ayons la foi de la réponse. Ne doutons pas qu'une indication aussi petite soit-elle est le commencement d'un grand signe. Commençons toutes choses par la prière. Travaillons ensemble avec Dieu en vue du bien. C'est cela la vérité. La prière, en d'autres mots, c'est la foi. Et la foi, ce sont les signes. C'est ce que le Seigneur Jésus montra. Dieu est le Dieu qui est vivant d'éternité en éternité. Généralement, nous disons que Dieu est vivant et nous affirmons cette foi. Mais si c'est fait dans le vague, si nous croyons que c'est abstraitement qu'il est vivant, et si nous doutons du fait qu'il est vraiment vivant, à quoi ça sert de le dire? Aujourd'hui, nous disons que Dieu est vivant. Mais il faudrait reconnaître le fait qu'il puisse régir sur nous de ce droit qui lui appartient. Si nous nous opposons à lui, comment ceci peut signifier qu'on reconnaît le Dieu vivant? Les nombreux ouvriers de Dieu montrés dans la Bible ont reconnu que Dieu était vivant. Et ils ont dédié jusqu'à leur vie pour le Dieu vivant et lui ont obéi. Ils ont fait travailler Dieu à travers eux. Ils se sont laissés régir par Dieu et c'était cela leur foi. La Bible n'a pas été écrite par un seul auteur et ce n'est pas non plus l'écrit d'un seul événement. De nombreux gens, pendant plusieurs générations, pendant des milliers d'années, ont expérimenté le fait que Dieu était vivant et ils ont obéi et se sont soumis au Dieu vivant. Et c'est cette foi-là qui avait été amassée et la réponse à leur prière a été amassée et constitue ainsi la Bible. C'est pourquoi ceux qui ont cherché Dieu l'ont trouvé. Ceux qui ont demandé à Dieu ont trouvé la réponse. Et c'est ainsi qu'ils ont possédé la grande puissance. Et c'est cela le contenu de la Bible. Et beaucoup, que ce soit à l'Est ou à l'Est, ont expérimenté la même chose. Et ils ont été saisis par la main du Dieu vivant. Et ont obéi à sa volonté. Nous pourrions nous dire, si Dieu était vivant, il pourrait se montrer à nous. Il suffirait simplement qu'il se montre à nous pour montrer qu'il est vivant. Mais ce n'est pas la manière de Dieu. Dieu ne peut pas s'approcher plus près de nous que par l'intermédiaire de sa parole. Il s'est montré à nous à l'humanité par la parole. La parole, ça pourrait être la limite de Dieu. Dieu ne peut pas aller au-delà de sa parole pour se montrer à nous. C'est cela sa limite. C'est en écoutant la parole de Dieu que nous l'avons vue. C'est en écoutant sa parole que nous avons touché Dieu et entendu, l'entendu de nos oreilles. C'est la dernière méthode, la méthode ultime pour se montrer à nous. C'est cela la vérité. Il n'y a pas d'autre méthode. Dieu a envoyé sa parole par Jésus-Christ comme évangile et finalement par le Saint-Esprit comme la vérité. C'est la manière de Dieu de nous approcher au maximum et de nous pénétrer et de se montrer à nous. C'est la meilleure méthode possible. Et cette méthode s'appelle la vérité. C'est pourquoi, si nous cherchons autre chose au-delà de la parole, au-delà de la vérité, eh bien, c'est défier Dieu, c'est lui désobéir et ne pas croire en lui, c'est s'opposer à lui. La vérité, c'est la meilleure méthode pour les hommes de voir Dieu, de le connaître. Il n'y a pas d'autre méthode. Plus jamais il n'y en aura d'autre. Jusqu'à ce que la vérité parvienne jusqu'à nous. Dieu le Père a parlé et le Fils est venu pour verser le sang et a donné la rédemption des péchés. Et le Saint-Esprit a considéré nos chairs comme son temple. Et c'est ainsi qu'il nous a fait comprendre cette parole. Que demander de plus à Dieu? C'est la façon de penser des hommes. Montre-moi Dieu à ma façon. Je voudrais rencontrer Dieu à ma manière. C'est à cause de cette manière de penser qu'ils ne peuvent rencontrer Dieu. Dès le départ, Dieu a dit qu'il était esprit. C'est pourquoi celui qui adore Dieu, qui le rencontre, doit le faire en esprit. Et c'est de tels adorateurs que Dieu cherche et que ceux-là peuvent le rencontrer. Dieu a déjà défini ses limites. Et l'homme dit, non, non, que tu te montres à nous d'une manière tangible, que nous puissions te toucher. C'est impossible pour Dieu d'apparaître comme un phénomène qui disparaît en ce monde. Dieu est esprit, c'est pourquoi il ne disparaît pas. Il est éternel, c'est pourquoi il ne change jamais. C'est pourquoi Dieu est le même pour ceux qui l'ont rencontré dans le passé, qui le rencontrent aujourd'hui ou qui le rencontreront dans le futur. Dieu se montre exactement de la même manière et manifeste le fait qu'il est vivant. C'est pourquoi nous devons être humbles devant sa parole et nous devons ouvrir nos cœurs avec humilité et obéir à la vérité. C'est ça notre devoir et c'est aussi notre humilité en tant qu'homme. C'est ainsi que Dieu est doux et c'est cela son amour. Dieu veut avoir une relation avec les hommes, mais demander au-delà des limites de Dieu, c'est renier Dieu. C'est au tour des hommes de faire leur concession. La vérité est la méthode de concession ultime de Dieu. La vérité, c'est la vie du Dieu vivant. C'est la puissance du Dieu vivant. La vérité est la promesse du Dieu vivant. C'est ce qui est éternel de la part du Dieu vivant. C'est pourquoi c'est à nous de courir vers Dieu, de nous arrêter, de nous entêter et de vouloir rencontrer Dieu par la raison humaine. Mais il faut s'humilier et vouloir rencontrer Dieu par la foi. Il faut prendre cette décision humble. Je vous demande expressément de considérer la vérité comme la réponse du Dieu vivant. C'est pourquoi il n'y a rien au-delà de la vérité pour sauver l'homme. Il n'y a rien au-delà de la vérité pour bénir les hommes. Il n'y a rien au-delà de la vérité pour consoler les hommes, pour montrer la justice de Dieu. Il n'y a rien au-delà de la vérité. La vérité, ce n'est pas le genre de vérité dont parlent les mondains. Si vous allez dans certaines universités, on y parle aussi de la vérité dans leur motto. La vérité, c'est la lumière. Nous, nous sommes à la recherche de la vérité. Mais la vérité dont parlent les gens du monde désigne un principe académique, un principe logique et rationnel. Mais toutes les choses de ce monde changent. C'est complètement différent de la vérité dont parle la Bible. C'est essentiellement différent. La vérité des mondains n'est pas spirituelle. La vérité des mondains, c'est l'idéal des hommes, alors que la vérité est la puissance de Dieu. Donc il ne faut pas confondre, se méprendre sur le mot vérité. La vérité, littéralement, est le témoignage de Dieu par l'intermédiaire de sa parole. Vous et moi, nous avons la vérité, c'est pourquoi nous avons la foi. Et c'est pourquoi nous avons vécu la vie spirituelle et nous sommes sûrs de notre salut. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il les a faits par la parole, par les commandes, par les commandements. Mais ces commandements, maintenant, entrent en nous comme la vérité par l'aide du Saint-Esprit. Les commandes de Dieu peuvent tomber par terre, mais la vérité, elle, nous pénètre par le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est par l'intermédiaire de la vérité que nous pouvons comprendre, connaître les attributs de Dieu, ce que Dieu cherche, ce qu'il attend. C'est pourquoi il faut chercher à connaître plus la vérité. Il faut chercher à faire partie de la vérité et à devenir un homme de la vérité. C'est la seule attitude que nous devons prendre devant Dieu. C'est pourquoi les hommes de la foi dans la Bible n'ont dépendu que de la vérité. Et c'est dans la vérité qu'ils ont trouvé le bonheur. Dieu est vivant. Le Dieu invisible ne peut être visible que par la vérité. C'est seulement par la vérité qu'on peut le comprendre. Dieu est vivant. Même s'ils ne font pas entendre directement sa voix, c'est la vérité en nous qui peut se faire entendre par les oreilles de nos âmes. Toute inspiration désigne l'écoute de la parole de Dieu par l'intermédiaire de la vérité. C'est la raison pour laquelle il faut recevoir la grâce et la plénitude du Saint-Esprit. C'est dans cet état-là que la vérité, en étant entrée en nous, peut ouvrir les oreilles pour entendre sa parole. Beaucoup de nos jours écoutent la parole de Dieu, mais croient que c'est un message quelconque un message qu'ils peuvent entendre dans le monde. C'est pourquoi ils ne peuvent recevoir la parole de Dieu en tant que telle. Les gens de ce monde ne font pas les différences, puisque le prédicateur est un homme, et quand il descend du pupitre, il parle aux hommes, il parle même aux incroyants. Donc ce même homme qui parle ici et là croit que cet homme-là utilise le langage du monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il se trompe. Quand nous sommes dans le monde, nous parlons le langage du monde. Mais nous, les pasteurs et les prédicateurs, quand nous nous tenons sur le pupitre, nous prêchons la parole qui était avec Dieu avant le commencement de toute chose. La parole qui contient toutes les autorités de Dieu. Nous pouvons avoir en main un faux billet de banque. On peut aussi avoir en main un billet issu par la Banque nationale. Mais avec de la monnaie contrefaite, on ne peut rien faire. Alors qu'avec la vraie monnaie, on peut acheter des produits. Donc, on sait soi-même si l'argent qu'on a est véritable ou pas. De la même manière, le prédicateur, le pasteur, sait très bien de quoi il parle. Même si ce qu'il dit sur le pupitre peut ressembler à ce qu'il dit en dehors de l'Église, le contenu, la puissance, la valeur de ce message et l'origine sont totalement différents. C'est la parole de Dieu qu'il prêche. Vous et moi, nous devons entendre la parole de Dieu. Il faut essayer de comprendre Dieu par sa parole. Il faut croire en lui. Il faut essayer de suivre cette parole. Il faut absolument obéir à la parole. Dieu tient ses promesses. Et c'est lui qui œuvre selon sa parole. C'est pourquoi tous les hommes de la foi, depuis le passé jusqu'à présent, Dieu a tenu ses promesses vis-à-vis des hommes de la foi et les a aimés et ne les a pas méprisés. La Bible dit, si tu me hais, je te hais. Si tu me méprises, moi aussi je te mépriserai. Si tu t'approches de moi, moi aussi je m'approcherai de toi. Invoque mon nom et je te répondrai. C'est ce que dit Dieu. Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a donné son nom, pour l'invoquer? Comment un homme oserait-il connaître le nom de Dieu et l'invoquer? Mais Dieu demande de l'invoquer. C'est pourquoi il a donné son nom. Et en invoquant son nom, Dieu promet de répondre, je suis là. Il faut avoir cette foi. Je vous ai dit à maintes reprises, nous ne sommes pas des religieux. Nous entretenons une relation éternelle avec le Dieu vivant. À l'époque des juges, il y avait un jeune homme appelé Gidéon. Et les versets que nous devons de lire constituent la prière de Gédéon. Et lui ne supplie pas Dieu pour lui-même. Dieu est vivant, il aime Israël. Et Dieu, et c'est parce qu'il était sûr que Dieu n'abandonne pas ses bien-aimés, qu'il a compris quelle était sa mission, et il prie Dieu. Et la prière de Gédéon et désespéré. Il fallait absolument que sa prière soit exaucée. Dieu l'avait appelé, et s'il n'avait pas la foi, son peuple périrait. S'il n'était pas exaucé, si Dieu ne l'aidait pas, Israël périrait. Il avait cette lourde responsabilité, c'est pourquoi il prie. Donc la prière de Gédéon, c'est une prière qui assume la responsabilité. Et Gédéon prie. Il prie avec sa responsabilité. Mais vous et moi, quand vous priez, est-ce que vos prières sont responsables? Si je n'ai pas répondu aujourd'hui, si ma prière ne parvient pas à Dieu, est-ce que vous êtes dans cette situation désespérée? Il faut comprendre l'urgence d'une telle prière. Supposons que vous priez pour votre famille. Il faut que Dieu me réponde pour que ma famille soit sauvée. Il faut absolument ressentir l'urgence, la situation désespérée. Même chose pour la prière d'un pasteur. Si ma prière ne parvient pas à Dieu, mon église meurt. C'est pourquoi il faut que je sois absolument exaucé pour que l'église vive. C'est avec ce désespoir-là qu'un pasteur prie. Ce n'est pas une prière faite pour cultiver sa personnalité. C'est vraiment le face-à-face ultime avec Dieu. Il faut prier de cette façon. Supposons que vous priez pour vos enfants. Si votre prière n'atteint pas Dieu, vos enfants vont mourir. Si c'était le cas, vous vous débattriez pour que cette prière parvienne à Dieu. Et non seulement il faut qu'elle parvienne à Dieu, il faut qu'elle soit exaucée. Si vous étiez dans cette situation désespérée, vous feriez tout pour être exaucé, vous feriez n'importe quoi. C'est comme la femme dans la Bible qui s'est débattue et Jésus qui lui dit « Je ne peux pas donner le pain préservé aux enfants à des chiens, mais même un chien mange les miettes tombées de la table du maître. » C'est à ce point que cette femme s'est reniée, s'est abaissée, s'est humiliée, peut lui importer son honneur mondain. Tout ce qui lui importait, c'est d'être exaucé pour que elle, ses enfants vivent. Elle a reconnu sa situation désespérée. C'est pourquoi elle a supplié Jésus. Eh bien, c'est exactement la prière de Gédéon. Eh bien, c'est ça la prière d'un homme qui a reçu une mission. Les chrétiens de nos jours, donne-moi ceci, si tu ne me donnes pas, bon, tant pis. Si tu me donnes, tant mieux. Ce n'est pas le genre de prière faite de la part d'un homme qui a une mission. Il faut que je prie absolument pour mon peuple. Il faut avoir ce sentiment d'urgence et de désespoir. Même chose pour Dieu. Dieu savait très bien que s'il n'envoyait pas son Fils dans le monde périrait. S'il ne l'envoyait pas à la mort, il ne pouvait sauver l'humanité. Même s'il avait eu pitié du monde, il ne pourrait pas le sauver. C'est parce qu'il était conscient de la situation désespérée de l'humanité qu'il a envoyé son Fils à la mort, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Dans Actes 4, 12, il est dit « Pas un seul nom n'a été donné pour le salut de l'humanité. » C'est la même façon, c'est la même chose pour nous. Sans le Christ, nous ne pouvons pas nous faire entendre à Dieu. Sans le Christ, nous ne pouvons obtenir aucune puissance, aucune réponse, aucune aide de la part de Dieu. Sans le Christ, je ne peux pas résoudre mon problème. Je ne peux pas vivre, ma famille ne peut pas vivre. Il faut avoir cette détermination claire et bien précise. La prière, c'est une détermination considérable. Et Gédéon prie, je prie pour Israël. C'est pour Israël que je prie. C'est pour Israël que je te demande. Ma prière n'est pas faite pour cultiver mon caractère. Je ne prie pas pour moi-même, je prie pour ma famille, je prie pour mes descendants, pour mon peuple. C'est avec cette mission bien précise qu'il supplie Dieu. C'est pour cette tâche considérable, pour sauver Israël, que Gédéon a fait une suggestion. Il est venu au devant Dieu avec une toison de laine. Et il demande, je vais mettre la toison sur l'air. Si tu veux sauver Israël à travers moi, eh bien, mets la rosée sur la toison et que tout le reste du terrain reste sec. Et le lendemain matin, la toison était toute humide et quand il l'a pressée, une coupe d'eau en est sortie. Mais Gédéon prie de nouveau. Seigneur, ne te mets pas en colère contre moi. Je te demande autre chose. Maintenant, que la toison seule reste sèche et que la rosée vienne sur tout le terrain. À ce moment-là, je suis sûr que tu m'envoies pour sauver Israël. Après avoir fini sa prière, le lendemain matin, la toison était sèche et puis le terrain était tout humide à cause de la rosée. Là, il faut apprendre quelque chose au sujet de la prière de Gédéon, la réponse positive et négative. La réponse que nous recevons n'est pas simplement simple. De même que la toison était humide, la réponse va être positive. Mais de même que la toison était sèche, la réponse peut être négative. Dieu a deux façons de répondre à nos prières. Jésus prie dans le jardin de Gethsémané avant sa mort. Père, fais que cette coupe passe loin de mes lèvres. Jésus est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Et si la supplication du Tout-Puissant est exaucée, et si la coupe s'éloigne de ses lèvres, que serait-il advenu de nous? Que serait-il advenu de l'amour de Dieu pour l'humanité et du ministère du Sauveur? La terre, cette terre avait absolument besoin de la mort de Jésus, c'est ce que Dieu a reconnu. C'est pourquoi la prière du Seigneur Jésus n'avait pas été exaucée. Dieu est resté silencieux et la mort de Jésus devait se dérouler comme prévu. C'est pourquoi nous demandons, Dieu réponds-moi, donne-moi de l'argent pour une telle date. Et il se peut que le jour où on a demandé, nous recevions cet argent. Mais il arrive aussi que même si j'ai prié de toutes mes forces, de toute mon âme, même si j'ai prié à Dieu et que je n'obtiens rien de ce que j'ai demandé, alors il ne faut pas conclure hâtivement. Dieu n'existe pas, il ne me répond pas, il m'a abandonné. Il ne faut pas penser négativement. Non. Le fait même que cette prière ne soit pas exaucée est la réponse. De même que le terrain est humide alors que la toison est sèche. C'était ça la réponse. Dans le passé, je voulais absolument faire mon service militaire. Quand tous les jeunes de mon âge allaient faire leur service militaire, je ne pouvais pas. Et si je n'avais pas fait mon service militaire, je ne trouverais pas de travail, je ne pourrais rien faire dans la société. Alors je croyais que Dieu m'avait abandonné, que les cieux avaient été fermés pour moi et que j'avais été maudit. Mais un jour, Dieu m'a appelé. Et avec le temps qui est passé, je suis rendu compte que si j'avais passé 3 ans et demi à l'armée, est-ce que vraiment je ferais l'œuvre que je fais maintenant aujourd'hui? Et vraiment là, j'ai les sueurs froides. Au moment où j'ai demandé d'aller à l'armée, Dieu m'a appelé. Il ne m'a pas répondu. Toute réponse, la réponse qui est exaucée, la prière qui est exaucée, qui n'est pas exaucée, c'est la réponse. La toison était humide, c'était la réponse. La toison était sèche, c'était aussi la réponse. Si la prière de Jésus avait été exaucée, comment nous, vous et moi, pourrions-nous être sauvés aujourd'hui? Comment dépendrions-nous de la grâce du sang de Jésus? La prière de la foi n'échoue absolument pas. Vous devez remettre à Dieu la réponse. Ne cherchez pas à être répondu exactement comme vous voulez. Reconnaissez la manière avec laquelle Dieu répond à vos prières. Prenons le point. Je demande ta réponse, qu'elle soit positive ou négative. Dieu, donne-moi la réponse, qu'elle soit positive ou négative. Donne-moi, réponds-moi, positivement ou négativement. Donne-moi la réponse. J'obéirai à la réponse, quelle qu'elle soit.